Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show en direct de La Rochelle.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient, on mastique. On est dans le Super Moscato Show. Vous le savez, comme tous les jours, on est là. De 15h à 18h, vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous en remercie. Et vous écoutez d'ailleurs nos podcasts de plus en plus. On est là dans les podcasts. Bon, ça va, c'est bon. J'ai mal avec ce nom. On est en direct du centre d'entraînement.
Tu nous écoutes parfois en podcast, Yann, de temps en temps, non ?
Bien sûr.
Du stade bordelais, du stade Rochelais. On est là, bien sûr. On avait Yann Delegue, on avait Steve Founet. Bref, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer.
Dans une demi-heure, voilà. Vincent, oui. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps dans le Super Moscato Show. Ronan O'Gara est notre invité. Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle, bien sûr, légende du rugby irlandais aussi. Hein.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on le considère comme le manager de La Rochelle, mais c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du 15 du trèfle, quand même, qu'on va recevoir.
Oui, hein. Oui, c'est un ouvreur incroyable. Avant Sexton, c'était la référence. Il y avait une grosse génération. Hein, avec au centre.
O'Driscoll
d'Arcy, ouais, qui était très très bon. Ouais, les deux étaient très. Ils avaient une ligne de trois quarts incroyable.
Une super équipe, mais Ronan, c'était le métronome. C'était aussi le buteur, c'était le joueur et le buteur.
Même style que Sexton.
Ouais, même genre. Et puis autant de poids dans l'équipe. Ouais. On la gagne.
Moins de commotion aussi, non?
Ouais. Un peu moins, apparemment.
Un peu moins. Enfin, vu comment il entraîne, là, j'ai vu l'entraînement.
Il a dû en prendre quelques-uns, quand même.
Bon, tout à l'heure, on a assisté à l'entraînement du Stade Rochelet. C'était calme, quand même.
Calme. C'est
très faible intensité, très déçu de l'intensité émise par les rugby à l'entraînement.
Là, Stephen était à la salle de muscu, à côté de Skelton. Il le regardait comme c'est le toit.
J'ai dit, oui, it's a warm-up.
Un moment donné,
il s'est chauffé. Il m'a dit, non, Max. Max, I'm lean.
À un moment donné, il a pris 220 kilos en couché. Il est à 210. Quand même, il a arrêté. Il était à 210, Stifounet. Ouais.
On va jeter un œil sur la question moyenne du jour, spécial La Rochelle, bien entendu. Quel club a le plus gros boulard? Le Stade Toulousain ou le Stade Rochelet? On peut demander à Yann.
Yann, il y a quelques années au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain. Attention, en venant de Toulon. Déjà, Toulon, quand même, ils sont quand même souvent troisième position, voire au pied du podium.
Après, à Toulon, ces dernières années. Toulon, c'est surtout la gamelle plus que le boulard. Ça parle beaucoup.
Pierrot, pourquoi un club parisien ne peut pas être dans la question moyenne?
Écoute, je ne sais pas, moi, en rugby, c'est identifié quand même les boulards.
Autrefois au Racing.
Je croyais que t'allais dire Stade Français. Non, on touche pas à Stade Français.
Stade Français, non.
Stade Français, c'est l'école de l'humilité.
Oui.
Avec un président qui était. Ah oui, Max,
sobre.
Tout à fait
la
sobre.
Discret.
Dans l'humilité, discret.
Très vous avez remarqué quand même que c'est les clubs qui gagnent quand le boulard.
Oui, bien sûr.
Aussi.
On ne comprendrait pas quand il y en a que c'est le boulard.
Alors, il y a un vrai match. En tout cas, c'est ce que tu nous as toujours dit, Vincent, entre La Rochelle et Toulouse. Mais. Il y a quand même un large vainqueur de la question moyenne, puisque le Stade Toulousain se détache avec 66% de vote.
Oui. Mais il y a plus longtemps qu'ils sont là.
Oui, peut-être qu'ils sont un plus gros boulard.
C'est l'ancienneté, c'est des boulards.
C'est quoi, la finale de l'an dernier, elle leur a fait
des boulards. Des boulards ancestraux.
C'est un témoin qui se passe de main en main.
De génération en génération.
De Guinovès à
Hugo Boulard.
De Villepreux à Guinovès. C'est un boulard, c'est un lien qui se crée entre les générations.
Mais c'est vrai que.
Ils sont tous amis. Hein,
pour avoir été aussi de l'autre côté, donc la période du Stade Toulousain, mais avant j'étais à Toulon. Et c'est vrai que quand on affrontait les joueurs du Stade, c'était les théories. Sien du rugby, on va le expliquer.
Bien sûr.
Et ça s'est resté depuis toujours. Quoi.
Denis, là. Bon, maintenant, Denis.
Elle est dégonflée depuis le boulard.
Ouais, bon, là, en ce moment, il n'a pas trop le boulard. Mais Denis, il a un boulard. Bon, la première fois que j'ai rencontré, j'avais 20 piges.
Il n'a pas dit bonjour.
Écoutez-moi, il était sur un fauteuil, tu sais, qui bouge là, sur le côté, comme on dit, tournant, tu sais.
Ouais. Ouais.
Il était à 20 mètres, il y a quelqu'un qui me dit, c'est Denis Charvet. Je vais jouer contre lui, je lui avais la main comme ça. Il s'est à peine retourné, il m'a fait un salut de la main. Déjà, attends, il te rappelle la tête, Brad Pitt qu'il avait. Ça me foirait, quoi.
T'étais jaloux un peu de Denis en vrai.
J'aurais juste tête quand je suis l'hécatombe. Des trains d'entrée, j'en aurais rempli de filles.
J'ai l'impression que Denis a quelques wagons quand même.
Il est pas maladroit. Il a pas été maladroit.
Bon, là, vous pouvez continuer de voter.
Il est pas moins virulent.
Si vous voulez inverser la tendance, supporter du Stade Rochelet, si le plus gros boulard vous tient à cœur, vous allez sur le compte Twitter du Super Moscato Show pour changer ce vote en faveur de Toulouse. pour le moment. Alors les Rochelais, on le reçoit à 17h, le capitaine Greg Aldrit et Juini Antonio, le pilier, sont nos invités à 17h, et puis 16h30 donc c'est le manager Ronan O'Gara. Journal moyen, deuxième édition à 16h45, et puis dans un instant tout de suite, qui est favori de Roland Garros cette année? Vincent, tu vas régler le problème. Ah oui. Juste le temps de vous rappeler que bien entendu
je vous surprends,
on finira avec un Kikadi pour gagner votre paire de baskets Wiz. Vous envoyez Kikadi par SMS au 7 32 16. Eric Dimeco nous rejoint à 17h, et on parlera de la règle du but à l'extérieur.
Ah oui. Vincent, alors certains... là, regrette Eric, il me l'a dit,
ouais,
il m'a dit,
certains trouvent ça génial que ça existe,
ce but
plus
à l'extérieur, il me l'a dit, il m'a dit, tu vois, il m'a appelé vers 1h du matin, ça lui est revenu comme ça, il m'a dit, tu vois, ce but à l'extérieur,
et ben voilà,
je même veux qu'il soit plus,
et ben on va faire de l'opinion à 17h.
Ces anciens qui sont responsables, c'est sa génération qui sont aux affaires, qui auraient pu, mais c'est eux qui ont installé ce but simple sans rien.
Rien. J'ai reçu un message d'un Toulousain là, et ben ils avaient pas un peu le boulard?
Non, du tout.
L'école de l'humilité.
C'est la décennie Bègle, je te rappelle, si on pète pas le boulard. Allez, tout de suite, retrouvons notre meilleur espoir français.
Je veux savoir qui c'est d'abord.
Ah, tu veux savoir qui c'est?
Le fils de Patrick Soula, Tommy.
Oh, Tommy, j'embrasse son père qui était. J'ai joué pendant 10 ans contre lui, qui était un super talonneur et qui a bien réussi dans les affaires, mais qui était un talonneur merveilleux.
Direction Roland Garros avec le meilleur espoir français 2024.
Henri nous rejoint, installe-toi Henri. Tiens voilà, tu prends le micro qui est là. Voilà, détends-toi. C'était un match très difficile. Henri, pour toi, c'est une défaite amère, ce 16e de finale.
Je suis tombé sur le juge arbitre une soixantaine d'années, très psychorigide sur les règlements. J'ai gagné premier set 7-6.
6-0, Henri. Oui, je suis sûr.
Je veux jeter ma raquette, bon ça me glisse avec la sueur et la raquette s'envole de l'autre côté du terrain vers mon adversaire.
Clément, tu sentais que la victoire t'échappait quand même.
Le juge arbitre m'a dit, on en est où dans le jeu? Je dis, il y a 15 ans. Elle m'a dit, très bien, il y a 3 points de pénalité, je joue pour votre adversaire.
Henri fait beaucoup d'efforts en ce moment. Vive l'effort sur Antenne 2.
Il va te régler le problème.
Bravo.
Parce qu'on a aimé la raquette qui part maintenant.
Je jure, je voulais lancer la raquette à Philippe.
C'est totalement fortuit. Ah bah oui. C'est un geste malencontreux, comme on dit.
Rien.
Alors, bizarrement, l'arrêt de la raquette a touché le nez de l'adversaire.
Ah ouais.
C'était pas de chance.
Imagine, tu le prends en pleine face avec la raquette.
C'est dangereux, c'est dangereux.
Tu le fends en deux quand même.
Dommage, très dommage.
Ouais.
Ah bah oui.
On sent que ça t'aurait fait plaisir quand même.
Non, l'adversaire était très gentil.
Dans ce sport, il est pointu, ce sport, il peut te monter les nerfs. Je me suis aperçu.
Ah, t'as joué?
T'as joué récemment?
Non, j'ai pas joué,
mais
je
regarde
le jouer. Non, mais le paddle, ouais. Paddle, c'est intéressant. Ça n'a pas du tout la même sensation. Paddle, il y a beaucoup de points où tu peux perdre.
Oui, machin,
beaucoup d'échanges, c'est pas pareil. C'est comme au basket, les paniers, t'as beaucoup de points, tu vois. Donc c'est différent. Mais ouais, ça, c'est crispant. Le tennis, c'est
très dur dans la tête.
Ouais, très crispant. Ouais, ça peut être très énervant. Puis le mec en face, il fait le malin, tu peux le fendre en deux.
Ça, je fais pas ça.
Mais je te jure, tu peux en venir au mec. Dans les sports, en tennis amateur, où tu crains rien, je pense que les mecs, ils peuvent en venir au mec.
C'est pour ça qu'ils ont mis le filet.
Tu fais une commission de discipline quand même, tu crains rien. Je suis passé en commission de discipline.
Non, mais pas chez les pipes. Si moi j'en fais du tennis,
tu veux dire que ça en match
mais
tranquille.
Si je m'inscris dans un club, si à un moment j'ai une histoire, si je fie un coup de raquette à un mec, il va rien m'arriver.
Peut-être que si c'est toi, ça peut se savoir par contre. Non,
oui. Surtout si c'est toi le mec en face, il peut ne pas se relever. C'est ça le problème. Alors on parle de Roland Garros, c'est dans moins d'un mois et c'est une édition très indécise. On a vécu quasiment 2 décennies de domination absolue de Nadal. Et là vraiment, on a du mal à voir qui est favori de cette édition, sachant que Djoko aussi fait son mystérieux et qu'il n'y a pas d'ogre cette année sur terre battue. Donc pour vous, qui est le favori de Roland Garros? Vincent Moscato règle le problème avec Eric Salio. Salut Eric.
Salut l'équipe, ça va?
Eric, alors d'abord un mot sur les deux légendes, Nadal et Djoko, où en sont-ils?
Voilà, on va commencer par l'état du numéro mondial, Novak Djokovic. Alors il se trouvait à Madrid pour suivre le Classico dimanche soir à Bernabeu, puis hier soir pour recevoir un trophée la russe, mais il ne passera pas par la Cara Magica, choix stratégique dicté par sa petite forme et par le fait que ce Masters 1000 se déroule à 600 mètres d'altitude, ce qui est un vrai problème. Mais comme il n'a pas besoin de points, il va se préparer tranquillement pour Rome dans 2 semaines. Rafa Nadal, lui, s'entraîne dur à Madrid depuis 5-6 jours, mais c'est surtout l'identité de son premier adversaire jeudi qui fait parler. Il affrontera en effet un môme de 16 ans, Darwin Blanche, américain de nationalité, mais biberonné à l'académie de Juan Carlos Ferrero à Alicante. Et sur Instagram, le môme il a réagi avec ce message « Les gars, je joue Nadal », accompagné de 3 lettres que je n'ai pas comprises, WTF. Bon, bref.
Ah oui,
stats saisissantes. On n'a jamais vu sur le circuit un match avec autant d'écart d'âge, 21 ans. Et puis, on suivra aussi Carlos Alcaraz. Après ses forfaits à Monte-Carlo et Barcelone, l'Espagnol semble s'entraîner de nouveau normalement, mais il a toujours cette douleur au bras.
Alors voilà pour Nadal, Djoko et Alcaraz. Juste avant de démarrer, si on se projette sur les Français, évidemment pas pour un titre, mais qu'est-ce qu'on peut espérer ? Est-ce qu'il y a un ou deux trucs à suivre très sympas, Eric ?
D'abord, on va revenir sur un blessé, et on a de la peine pour lui, c'est Arthur Cazaux qui s'est fracturé un ligament de la cheville à Barcelone. Il doit porter une botte immobilisante pendant encore deux semaines. Mais on a une vraie chance d'avoir botte quatre têtes de série à Roland, Hugo Humbert, Adrien Manarino, ça c'est acquis. Arthur fils et Gaël mon fils. Pour eux, ça va dépendre de leurs résultats à Madrid et à Rome. Et ce serait un vrai soulagement d'être protégé lors du tirage au sort. Et puis on guette Richard Gasquet qui va peut-être disputer à Madrid le millième match de sa carrière.
Richard Gasquet, Richard, c'est magnifique. Il se régale, Richard.
Richard, il se régale. Il a 40 ans, il joue. Là,
pas tout à fait 40.
Mais... Ah, non, mais 38, il doit avoir, non, Richard. Ouais. Il se régale. Il a raison, il continue. T'as raison. Il a un tel bagage technique. S'il s'entretient un peu, il peut encore s'amuser encore une paire d'années. Mais bon, voilà. Parce que tennistiquement, encore une fois, on le répète, on l'a dit mille fois, c'était un des meilleurs de sa génération. Après, voilà, après, il y a plein de trucs qui rentrent dans la partie. Et bon, voilà, il faut avoir tout, il faut avoir 18 sur 20 partout.
Alors là, c'est un débat pointu, c'est un débat de spécialistes. Vincent, qui est favori de Roland Garros cette année ?
J'ai envie de te dire, Pierrot, encore une fois, tu te l'ai dit en rigolant tout à l'heure, il n'y a pas de favori.
Oui, non,
il
n'y
a aucun favori,
oui,
Pierrot.
Ok, mais nous, on est une émission de débat.
Alcaraz, normalement, il pourrait être favori, mais il ne l'est pas. Parce qu'il c'est un sucre d'orge, il est blessé. Djoko, je crois, il n'est pas bien. Bon, Nadal. On va pas remettre le couvert sur Nadal. On va pas espérer non plus.
On est d'accord aujourd'hui.
Sur
personne
l'eau.
Ne croit une seconde
non,
que Nadal
est mort. Mais non, mais mort. S'il vient, c'est la figuration. Il viendra. Au pire, on pourra mettre un billet sur lui en deux sets gagnants pour les Jeux Olympiques. Mais là, sur Roland Garros, la marche est beaucoup trop haute maintenant pour lui. Donc actuellement,
Tsitsipas, Rude,
Medvedev, les mêmes. Mais c'est entre eux que ça va s'arracher.
Ouais,
mais il y a pas de favori. Alors tu peux dire Medvedev, tu peux dire Tsitsipas.
Parce que tu pourrais dire Sinner, mais la terre battue, c'est pas son truc, non.
Il a jamais gagné.
Il a jamais gagné, certes. Après, à Monte Carlo, il joue très bien au tennis parce qu'il vient d'enchaîner une belle tournée. Il arrive sur terre battue, il a quasiment pas de prépa, il fait un beau tournoi. Il doit gagner contre Holger Rune. Il se fait voler un peu par l'arbitrage, mais j'ai l'impression que ça lui va bien parce qu'il est un peu. Quand Tsitsipas, pardon, mais lui va bien parce que j'ai l'impression qu'il est un peu sur les jantes. Attention à Yannick Sinner quand même. Très bon.
Ouais, mais voilà, c'est ouvert. À partir du moment où c'est ouvert, je peux pas dire il y a un favori. Il y a pas un favori. Tu mets un billet sur lequel ? Bam, t'as 10 000. Tu les mets sur qui ? Personne.
Écoute, moi je vais te surprendre. Je les mettrai sur Djokovic.
Ah ouais,
je les mettrai sur Djokovic. Ça va vous surprendre, mais.
1000, tu mettrais, pas 10 000.
1005 peut-être, mais.
Mais
il faut rarement se méfier au tournoi qui précède Roland Garros. L'année dernière, Djoko gagne Roland Garros et il fait une prépa sur terre battue qui est très moyenne à Monte-Carlo. Il perd en 16e. Il gagne pas un seul tournoi. À Madrid, il est forfait. Il arrive à Roland, il gagne. Il détruit Casper Ruud en finale. En 2022, Rafa, qui reste quand même un mutant sur terre battue, les matchs d'avant Roland Garros, il est inexistant. Donc moi, j'ai pas envie de tenir compte de ce qui se fait avant. Si j'ai un mec avec
Djoko
sur les certitudes, sur terre battue, qui va être en bonne forme et qui est en bonne santé, parce que moi j'ai pas vraiment de doute sur la santé de Novak Djokovic, j'ai plus de doute sur son niveau de tennis actuel. Mais moi j'ai envie de repartir avec Djoko à Roland Garros. S'il faut vraiment se mouiller,
à la limite, s'il faut un petit billet.
Oui. Yann Delegue.
Ouais, il a plus de coach. Hein. Il a changé sa façon de se préparer aussi un petit peu. Je sais pas, j'y crois moins à Djoko cette année. Je sais pas pourquoi.
Est-ce qu'il y en a un que tu vois plus?
Je vois plus ce qui passe.
C'est Tsitsipas qui vient de gagner à Monte-Carlo.
Ouais, qui vient de gagner Monte-Carlo. En plus, il a déjà fait une finale de Roland, qu'il a perdu certes contre Djoko, mais ça dans l'expérience, c'est bien quand même.
Mais il était 7-0, je crois, en finale contre Djoko.
Ça s'imprime. Ouais. Ouais.
Donc, je sais pas, je pense un peu plus à lui quand même.
Tiens, Eric Salio, est-ce qu'il y en a un, toi, qui te semble à même de gagner Roland plus que les autres ?
Mon beau Salio.
Moi, j'avais vu Sinner gagner Melbourne. Je crois vraiment que Sinner peut.
Faire le doublé ?
Ah oui, il peut tous les mettre d'accord.
Ah ouais.
Parce que sans, comme l'a dit Stephen, il revenait à peine de Miami, il a joué 2-3 fois sur terre et il fait demi, il aurait même dû faire finale s'il y avait eu des juges de ligne électronique. C'est un garçon qui a un plan de bataille, qui est très bien entouré. Il a même dit que Madrid c'était un tournoi de préparation, mais il a raison parce que Madrid on peut pas se baser sur tournoi, il est en altitude, les balles elles volent, personne ne contrôle rien. Alors c'est Rome, on va dire le juge de paix, mais
bah, la zone des ailes. Quoi.
Mais non, mais je pense que Sinner,
c'est à combien d'altitude Madrid?
708.
600 mètres, 7000.
Qui a dit 7000?
Les mecs, ils font trois échanges, ils ont un souffle au cœur. Ils en font une bouteille d'oxygène. Mec, ils arrivent comme
un.
Vous venez, ils ont tennis. Avant, on croyait que vous alliez faire la plongée sous-marine. Ils arrivent avec les bouteilles dans le dos.
Mais sinon, je trouve qu'il gère très très bien la pression. Ouais. J'ai l'impression que ça glisse sur lui. Quoi.
Ouais. Mais Eric, qu'est-ce que Hugo Humbert peut espérer? Maintenant, pour les Français, on espère une deuxième semaine. Est-ce que Hugo Humbert peut aller en deuxième semaine?
Il est 13e quand même.
Bah, il aura un bon statut de tête de série, donc ça lui permet de voir un peu plus loin, mais ça va aussi dépendre du tas. C'est pas un spécialiste
Il a été bon,
mais lui, il a été élevé à Metz, il jouait que sur moquette pendant 9 mois sur 12, donc c'est un vrai problème. Mais il apprend, il a soif d'apprendre. Maintenant, avec un bon tirage, pourquoi pas, il peut faire une deuxième semaine, ça j'en suis convaincu.
C'est quoi ce truc, cette moquette, c'est quoi, c'est synthétique?
Non, c'est la moquette du salon.
C'est la moquette, non.
À l'époque, c'est sur moquette, parce que c'est sur moquette de tapis. Moquette,
rasé. Il remplaçait le gazon.
Ça fusait, vous savez, à 3000 à l'heure.
Ça n'existe plus, ça.
Non.
Si, dans certaines salles, tu peux encore trouver ça.
Oui, mais pas sur les tournois.
Moi, j'ai joué sur bois en Normandie, tu vois, c'est pour te dire. C'était le déplacement qu'on détestait. On allait jouer à Domfront. On était sur bois. Sur parquet. Donc, on partait avec un set de handicap à chaque fois, mais on les avait fourrés à chaque fois.
Sur Galet, quoi. À Dieppe, sur Galet, ça s'est joué des fois, ça.
Chiant pour les rebonds.
Ouais, pour les rebonds, ouais.
Il y a quelque chose qui m'étonne, Eric, on n'a pas prononcé du tout le nom de Zverev. Je vois qu'il est quand même encore 5e mondial. Je me souviens surtout de ce match où il se détruit la cheville à Roland contre Nadal, où il était en train peut-être de faire un exploit fantastique. Il n'est pas revenu, jamais revenu à ce niveau-là.
Il s'en est rapproché, mais je pense qu'il était à son pic et je pense qu'il a raté l'occasion de sa vie. Moi, je pense qu'il fait partie d'une sorte de génération sacrifiée, il ne gagnera rien. Enfin, c'est mon avis. Hein.
Ah, carrément.
Ah, ouais. Bah oui, non, mais t'as vu comment il déboule les autres, les Sinner, les Alcaraz, il a déjà rien aux autres. Hein.
Oui, ouais. Bah alors comme sur Terre, il n'y a pas, comme on le disait, il n'y a pas d'ogre sur Terre c'est actuellement, il y a quand même des gars comme Tsitsipas ou Zverev qui ont peut-être cet avantage-là. Runeux,
il n'a encore rien gagné. Je pense qu'il est trop nerveux pour aller au bout. Non, mais Tsitsipas, effectivement, doit croire en ses chances. J'en suis convaincu. Maintenant, ils vont peut-être tous s'étriper dans une partie de tableau. Donc, on va avoir une finale très bizarre. Hein.
Il y a le Deleg aussi, nous dit Tsitsipas.
Tsitsipas
au hasard. J'ai cru voir un gros Didi.
Il va jouer à Manchester, Tsitsipas.
Manchester
Titi.
Non, le refus. Alors,
tu vois, je n'avais pas, mais finalement, je ne suis pas
honte. Tu rentres demain matin, un stop. Voilà, c'est réglé. Une connerie de plus.
Donc, Sinner pour Eric Salio, Djoko pour Steve, pour Yann et Vincent. Bon, on verra.
Titi passe, Yann.
Ouais.
Et Djoko, tu crois pas, Eric?
Moi, je mettrais Djoko.
C'est-à-dire que tu es un peu piégé par un podcast cours numéro 1 de début d'année où j'ai dit qu'il ne gagnerait pas un chelem de l'année. Donc, je suis obligé de ne pas le jouer.
Personne n'a le droit de changer d'avis.
Personne n'écoutait. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tes trucs, personne n'écoute.
Tu veux dire un podcast?
On est un podcast. C'est devant le podcast de golf. Alors, tu vois.
Ouais, t'inquiète pas. Il n'y a pas un mec j'ai croisé dans la rue. Il m'a dit ouais, j'ai écouté Salio. Il avait dit ça. T'inquiète pas.
Non, mais pour l'Australie, j'arrive juste. Tu conviendras quand même.
C'est vrai, c'est bravo. Et juste un mot de Nadal, tu penses qu'il peut faire quoi? Un tour, deux tours ou mieux que ça?
Nadal, ça dépendra du trucage, du tirage au sort, je le répète.
Petit tour,
du trucage, du tirage au sort.
Oui, ça dépend s'il a faim, s'il a Nadal.
Ouais, Steve, bien sûr. Si tu veux, on parle plus de tennis, Steve.
Si tu veux, on va te filer un petit ballon, tu vas aller t'assister au coin là-bas, Steve, pendant 10 minutes. Ça va te faire transpirer.
Steve, en fait, il n'a qu'une hâte, c'est de croiser réellement Will Skelton. Ce qui va se passer.
Mais les notes, c'est vannes avant sur un petit bout d'appui.
Il a un calepin. Il a un calepin. Et des fois, il les dépose.
Je suis un mec de l'instinct. Non, mais tirage au sort truqué. En fait, Eric, il y a ce mythe de tirage au sort truqué pour que Nadal puisse jouer les pipes les deux premiers tours.
Oui,
ça n'existe pas, ça.
D'accord.
Tu peux pas rentrer
le truc. Tirage au sort.
Tu peux pas rentrer dans l'ordinateur, dans la programmation de l'ordinateur, c'est impossible.
Bien sûr.
Ah bon, écoute.
Non, mais là, c'est de la corruption, je veux dire, c'est très grave ce que tu dis. Mais il y a pas ça comme ça, de manière un peu détachée, comme si c'était possible et que ça.
À la rugby, à la rigueur, je veux dire.
Ça vous a pas étonné, le tirage au sort de Nadal, là, contre le jeune de 16 ans, là, ça vous a pas étonné? C'est bizarre, quand même. C'est le hasard, d'accord.
Oh, mais c'est la théorie du complot, le mec.
Oui.
Ah ouais. Oula, tu sais que le 11 septembre, il n'y a pas eu les attentats à New York, sur le World Trade Center. Tu le sais, ça? Non, mais c'est incroyable, quoi. Théorie du complot. C'est ça, il y a 21 ans d'écart.
Le tirage au sort, quand on fait.
Et ton tirage au sort du tournoi des journalistes à Monte Carlo, il était truqué aussi, Eric, ou pas?
Non, j'avais une bonne poule, mais j'étais pas à 100%, donc j'ai pas pu sortir.
T'avais une bonne poule, c'est-à-dire?
Bah, on était, il y avait 4 poules de 4. J'étais tête de série numéro 1 de ma poule, mais je sors de blessure. Vincent, tu sais, j'ai fait une sale chute de
ski. Quand on dit à Vincent, j'avais une bonne poule, un tirage au sort.
Ça, je suis, j'ai pas vu.
Allez, dernière chose, très sérieusement, Arthur Cazot. D'abord, est-ce qu'il sera là?
Mais non.
Il espère reprendre l'entraînement quoi, 2 semaines avant Roland. Je pense qu'il va essayer de le jouer, mais il s'entraîne. Tu sais qu'il s'entraîne un peu comme Muster à l'époque.
Il fait du vélo.
Non, il frappe assis quoi. Pour ne pas se
voilà.
Parce que c'est une blessure quoi,
au pied, à la cheville. Il a la cheville qui est dans une grosse botte, tu sais, comme une botte de ski. Ah, là. Ouais. Il ne peut pas bouger. Ouais. Mais il s'entraîne pour faire travailler le bras. Voilà.
C'est quand même fou que sur les joueurs français, on se demande qui va passer au deuxième tour et on ne se pose même pas la question s'ils seront en 8e ou en garde.
Ah, non, mais
on a pas parlé de Gaël Monfils peut nous faire un gros truc, non?
Le fils de l'Arthur.
Gaël Monfils sur sa forme actuelle, oui.
Il est bien, Gaël.
Qu'on peut espérer.
Il est pas mal.
Il est bien, Gaël. Méfiez-vous, Gaël.
Il a fait un quart, il a joué le quart à Monte-Carlo, non?
Méfiez-vous, Gaël.
Non, il n'a pas fait quart.
Il va être dingue de sa méfie.
Je crois que
mais arrête, par contre, Vincent, je voulais savoir si cette année tu comptes aller à Roland et que tu comptes regarder un match en entier ou pas?
Gaël, en entier.
C'est simple, si tu as des places et que tu comptes pas aller jusqu'à la fin du match, tu nous les donnes les places.
Vous faites les gagner à les auditeurs. Non, mais...
D'abord, je vous les vends, d'abord, parce que je les aurais payés. Je les aurais payés. Et je... Non, mais bien sûr. Non, j'irai à Roland. Ouais, j'irai voir un match.
T'aimerais bien voir le dernier match de Rafa?
Non, j'irai voir Titi Pass. Non, je m'en fous. Les enterrements, moi, je suis pas quand même nostalgique. Je les ai vus 150 fois jouer. En vrai, j'ai vu Djoko, je l'ai vu jouer. Encore à Bercy, il y a 6 mois, je l'ai vu jouer. Nadal, je l'ai vu jouer 10 fois.
Djoko était
costaud. Skelton, le même. Entre Skelton et Antonio, le même. Non, mais bien sûr, non, moi, je n'aime pas ces jubilés. Ça me fout le.
Franchement, Nadal, si on sait que ce sera son dernier match,
j'ai l'impression de l'avoir entièrement.
Tu peux pas Eric, j'espère que Nadal, son dernier match, il le jouera sur le terrain dans un match officiel et pas dans une mise en scène comme
tu sais qu'il vient de donner son accord pour jouer la Lever Cup en fin de saison.
Tu le vois arriver, Pierrot, les larmes. C'est à Paris aux Jeux Olympiques, ça sera autre chose.
Puis vous allez voir. Merci Eric. Ils vont remplacer Björn Borg par Roger Federer sur la chaise de capitaine.
C'est exceptionnel. Ils vont chialer tous les deux.
Vous êtes sur RMC, nous sommes en direct de La Rochelle aujourd'hui à 17h. Huini, Antonio et Grégory et Aldrit seront nos invités, mais dans un instant, c'est le manager, la légende du rugby irlandais, Ronan O'Gara, dans le Super Moscato Show en direct.
Alors, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show en direct de La Rochelle.
Vincent Moscato.
Il est 16h30, le Super Moscato Show. On y revient au Mastic, bien entendu, comme tous les jours. Vous le savez qu'on est là de 15h à 18h, mon petit Pierrot, dans demi-heure.
Alors, nous sommes en direct du stade de Rochelet et à 17h, nous recevons le capitaine Greg Aldrit et le pilier Huini Antonio qui viendront tous les deux, Vincent, en direct à 17h dans le Super Moscato Show. Mais tout de suite, c'est une grande première. On accueille une légende du rugby irlandais.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
C'est Ronan O'Gara, le manager de La Rochelle, 128 sélections avec l'Irlande, le grand chelem 2009, deux fois vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Munster. Ça, c'est pour la carrière de joueur, mais il y a aussi ensuite une grande carrière d'entraîneur. On va en parler tout de suite. Bonjour Ronan.
Bonjour.
Bonjour Ronan.
Comment ça va?
Oui, très content d'être ici. J'adore le programme. J'habite pas loin d'ici, mais chaque journée j'écoute à vous, mais j'adore votre état d'esprit, votre façon de faire des choses. Vous êtes un peu fou, mais c'est bien ça.
On est avec Romain Asselin qui nous glissait justement.
Il y a 2 ans, Ronan, tu me disais, j'adore écouter Rotten sans flamme et un peu le Moscato Show aussi quand je sors de l'entraînement.
Oui, mais Rotten sans flamme, c'est un peu trop foot pour moi, non? Mais j'aime bien le foot, mais je préfère bien évidemment le rugby. Mais vous avez tout en cette pays, c'est incroyable et j'adore d'être ici, c'est un grand privilège, c'est un grand honneur, mais en même temps, vous connaissez moi mieux que les autres, je prends mon boulot assez sérieux, j'ai un super groupe, un super club et on a déjà gagné 2 titres, mais ça ne suffit pas, mais il y a des autres qui pensent, peut-être ça suffit, so, il y a un peu de conflit en ce moment.
Alors la période est un peu compliquée, alors, notamment après l'élimination au Leinster, parce que le score t'a fait trop mal. Prendre 40 points au Leinster, t'as eu beaucoup de mal à le gérer, et depuis 10 jours c'est compliqué, on a l'impression, à La Rochelle.
Oui, c'est sûr, mais... vous êtes beaucoup plus expérimenté comme moi, et c'est normal. Quand vous êtes un haut niveau sportsman, ça arrive des périodes compliquées. C'est jamais tout beau dans la vie.
Oui, t'en as vécu.
Je comprends ça.
T'en as vécu comme joueur.
Oui, mais c'est beaucoup plus sérieux comme coach parce que je suis responsable. Quand tu es joueur, tu es responsable pour toi-même. Et quand tu es joueur, ou coach, tu es responsable pour tout le monde, le staff aussi. Ça pèse un peu. Et quand tu vois les choses, les joueurs l'ont déjà donné, va continuer de donner. Je suis un menteur si je dis que tout est bien, parce que tout n'est pas bien, mais jugez-nous à la fin de la saison, parce que c'est dans le top 14, c'est souvent dans la crise, tu trouves quelque chose que tu ne connais pas de ton équipe, et on est en train de découvrir ça avec cette équipe. So, c'est un peu normal, mais pour certains qui n'aiment pas le conflit, c'est une période compliquée, mais pour moi, une période compliquée, une période bien, c'est notre quotidien.
Donc tu n'as pas de problème avec le conflit et tu as clairement fait comprendre que la prestation de certains joueurs ne t'avait pas du tout convenu sur le match contre le Leinster. On pense notamment à Antoine Astoy, il y en a peut-être d'autres. Est-ce que tu les as recadrés?
Non, parce que c'est une faute de cible un joueur. Ça, c'est pas mon façon de faire, je pense, pour vous qui... Peut-être qu'on n'est pas trop ma personnalité ou ma façon de faire des choses. J'ai une énorme vision de partage avec les joueurs, mais à un moment, je dois trancher et je dois vivre avec mes valeurs, avec mes standards. So, si je ne suis pas content avec ça, pour moi, c'est une chose, quand vous êtes vieux, c'est d'avoir des regrets. Je déteste avoir des regrets sur le canapé.
Vincent, ça fait tousser Vincent, je sais pas pourquoi.
Ouais, mais il est...
Vincent, t'as peut-être des regrets?
Parce que je suis vieux et que j'ai des regrets aussi.
Non, parce que ouais, vous avez déjà gagné deux fois le bouclier, oui. Si j'ai lu bien hier soir. Pour moi, c'est comme ça, parce que j'ai découvert un esprit, un environnement de Crusaders qui est complètement différent, peut-être, que les autres environnements qui opèrent dans une... c'est quoi la possibilité d'un homme ou une femme? On ne sait pas notre limite.
Mm-hmm. Ouais, c'est essayer de pousser tes joueurs au maximum de leur performance. Quoi. C'est-à-dire, tu penses qu'il n'y a pas de limite à ça?
Oui, mais si tu bois le Guinness mardi soir et jeudi soir et tu manges le KFC, c'est un pas en blague.
Oui.
Ah ouais. La semaine d'un quart de finale, parce que vous êtes champion deux fois avant, ça ne sert à rien. Le passé, c'est dans le passé. On ne peut pas compter sur ça.
Tu penses qu'il y a eu un peu de prétention, de suffisance?
Non, parce que prétention, c'est un mauvais mot. Je n'aime pas ça, parce que ici...
Un peu de relâchement,
un relâchement, alors, en pensant que le match était déjà gagné ou...
Non, parce que tu ne peux jamais faire ça contre le Leinster, mais Afrique du Sud, première chose après Afrique du Sud, ça doit être 20 fois recuperé.
Oui, pas la Guinness, quoi.
Oui, surtout le mardi après. Mm-hmm. Mais...
Alors on rappelle que La Rochelle a dû faire un déplacement en Afrique du Sud, ensuite aller directement en Irlande à cause de cette formule de Champions Cup qui n'est pas idéale. Est-ce que tu penses aussi que vous avez payé cette débauche d'énergie?
Non, c'est une excuse.
Okay.
C'est pour le faible. Pour moi, après 45 minutes, le match était là. On était juste moins 10. Si tu marques un essai, c'est certain que Leinster va douter. Mais quand tu... Jamais mettre des doutes dans une tête d'adversaire comme ça, surtout après l'histoire entre les deux équipes, c'est certain que, à mon avis, ils vont craquer. Et moi, je pense un peu, on n'a pas besoin de prendre l'avion, doublant La Rochelle, parce que les mecs sont capables de voler tout seul, parce qu'ils prennent de nouvelles énergies.
Roland, quel est le vrai niveau de cette équipe de La Rochelle cette saison? Il y a eu beaucoup de up and down, il y a eu des matchs fantastiques contre le Stade français, il y a eu des matchs moins bien. Est-ce que toi, tu connais le niveau de ton équipe?
Oui, mais match fantastique contre le Stade français, c'est une exagération pour moi. C'est un match normal.
Oui, un bon match.
Oui, un assez bon match. Mais qui est magnifique maintenant, on a 5 matchs et on sait que si on n'est pas performant, on ne va pas être dans le 6. Mais si on est performant, la seule autre équipe qui a la culture de gang, c'est Toulouse. Et bien sûr, en ce moment, c'est 60 ou 70% contre 30 Toulouse, La Rochelle, mais si on arrive dans une finale, je pense que ça peut être 50-50. Mais les autres, ils n'ont pas gagné des choses, mais ça va compter le plus loin tout va dans la compétition.
La chance du rugby en France, c'est que tu as une deuxième chance. Parce que le bonus, c'est aussi important que la Coupe d'Europe. Si tu es en Irlande, si tu as loupé la Coupe d'Europe, c'est fini. Ouais. La saison, elle est terminée. Rien n'est plus important pour le Munster, le Leinster, pour toutes les provinces irlandaises que la Coupe d'Europe. En France, c'est pas vrai.
Exactement.
Tu as le bonus. Ouais. Et tu as une deuxième chance qui t'offre. Donc les joueurs se disent, là, on va tout mettre. Toi aussi, tu le sais que c'est une deuxième chance. Être champion. Si tu vas dans la population, ils sont contents, bien entendu. Ils sont heureux d'avoir gagné les Coupes d'Europe parce que c'est quelque chose de merveilleux. Mais le bonus...
Ah oui, oui.
C'est quelque chose de, tu vois, je veux te dire, c'est quelque chose de très très fort. C'est entre le drapeau bleu blanc rouge et le drapeau européen. Les Français choisissent le drapeau bleu blanc rouge. Tu vois ce que je veux te dire.
Parce qu'il y a
une tradition, une histoire.
Oh, oui, exact. Pourquoi? Pour moi, c'est le meilleur champion dans le monde. Et ça, c'est pour moi non négociable. J'aimerais pas discuter avec quelqu'un parce que c'est le meilleur champion. Hein. Et moi, je veux gagner le bouclier. J'avais la chance avec. D'être dans le staff de Racing à Camp Nou. 110 000 personnes,
c'est extraordinaire.
Ah, oui, il n'y a pas deux autres mots. Ouais, et pour certains ici, et que moi, je veux gagner le bouclier plus que le Champions Cup.
Ronan O'Gara dans le Super Moscato Show. Ronan O'Gara, le manager irlandais de La Rochelle. Ronan, si on parle de toi et de ta carrière, ton parcours de manager est excellent. Est-ce que être sélectionneur de l'Irlande, c'est écrit, ça arrivera un jour. Est-ce que c'est ton
non,
rêve?
Non, parce que je ne suis pas comme ça.
Parce que tu n'aimes pas les Irlandais.
Ou les Irlandais n'aiment pas moi.
Oui, tu as été sifflé un peu.
Oui, plan. Mais exactement.
Oui, mais c'est normal.
C'est normal. Il y a une rivalité Leinster-Munster.
Et oui,
il y a un joueur du Munster. Hein.
Mais expliquer ça. Il n'y a pas ça ici, en France, parce que je pense qu'il y a peut-être...
C'est la culture des clubs.
Oui,
c'est pas différent aussi fort, qu'une province.
Exactement.
Une province, c'est toute une région.
Oui.
Il y a des rivalités quand même en France. Biarritz-Bayonne, Castres-Toulouse.
Oui, mais là, c'est un pays.
Clermont-Brive, ça existe quand même.
En Irlande, c'est un pays avec une culture contre presque un autre pays, une autre province. C'est beaucoup plus ancré historiquement.
Mais sélectionneur d'Irlande, ça te fait rêver ou pas plus que ça?
En ce moment, j'aimerais avoir la capacité de gagner la Coupe du Monde. Je rêve de gagner des choses et si c'est avec Irlande, avec l'équipe de France, ça m'appelait, mais je ne suis pas français, mais j'essaie de faire mes épreuves, de mettre mon nom dans cette débat, mais c'est facile pour moi de comprendre parce que c'est un sport professionnel. Et si le meilleur sélectionneur la prochaine fois pour l'Irlande, c'est New Zealand ou un Australien ou en Afrique du Sud, c'est comme ça.
C'est pour ça que tu as poussé. Tu as poussé Fabien Galthié dans les escaliers.
Non, mais Fabien Galthié était là tout à l'heure. On peut imaginer que tu travailles avec lui au sein du 15 de France. Être dans le staff du 15 de France, ça pourrait arriver?
Dans le staff?
Ouais.
Numéro un, Ronan.
Il y a 2 ans, t'en avais parlé quand même. T'as dit moi, un poste adjoint, ça peut m'intéresser.
C'est un peu mon apprentissage. Mais maintenant, quand tu goûtes cette sensation d'être leader d'une équipe, c'est assez fantastique.
Être sélectionneur du 15 de France après 2027, ça pourrait être possible?
C'est pas moi. Moi, je dis, il n'y a jamais de malchance dans le sport. Tu prends qu'est-ce que tu mérites. Il y a des malchances dans une période, mais pas dans le jour. Et pour moi, je dois essayer d'inspirer cette équipe, de gagner plus, et après, peut-être, mon nom circule, mais...
Ah, mais bientôt, tu vas vouloir être président de la République.
Ronan, ton regard aussi de...
Tu remplaces Macron.
Ton regard d'international irlandais nous intéresse aussi sur la dernière Coupe du Monde, parce que nous, on a beaucoup de regrets de ne pas être champion du monde. Mais que dire des Irlandais? Cette équipe d'Irlande pouvait être championne du monde. Est-ce que tu as une explication, une analyse de pourquoi l'Irlande n'est pas championne du monde?
Parce que pour les 80 minutes, ils n'ont pas fait le boulot. C'est assez simple. Il y a mais, si, pourquoi, peut-être, mais ça c'est pour vous. Les mecs qui aiment bien l'apéro et discuter des choses ne peuvent pas changer. Mais c'est ça,
ils n'ont pas fait le match qu'il fallait face aux Blacks.
Oui, mais surtout le début de match, tu ne peux pas donner 9-0. Une équipe comme ça, avec leur record dans le quart de finale, c'est trop. mais si tu penses à prendre le sens inverse, c'était le seul match Irlande était obligée de gagner parce qu'avec notre record dans la Coupe du Monde, c'est 4 ans.
Mm-hmm. Quart de finale.
Ça peut complètement libérer et tu arrives en demi-finale complètement.
Mm-hmm. Tu penses qu'ils avaient passé ce tour-là et ce cap psychologique qu'ils avaient au bout, peut-être?
Non, mais aussi, je pense, est-ce que c'est Irlande ou nous qui a sous-estimé les Blacks? Leur capacité de jouer quand l'enjeu, c'est ça?
Ils jeu tue l'enjeu. Oh, c'est pas grave.
L'enjeu tue le jeu, on dit en général.
Ouais, là, c'est une expression française.
Ok, pardon. Oui,
c'est une expression française.
Et je pose la même question pour l'équipe de France. Avec ton regard extérieur, pourquoi la France a échoué lors de cette Coupe du Monde?
Mais j'étais dans le stade, j'ai vu le match, et le match était là pour le première 20 minutes, mais les Français n'ont pas tué le match. Mm-hmm. Oui, on peut dire que des décisions arbitrales différentes, peut-être, ou une different comprehension d'une règle qui bascule dans le sens d'Afrique du Sud, mais...
Sur le sud-est.
Oui.
Sur la deuxième ligne.
Absolument.
Sur l'en avant volontaire de Tsebet, par
oui,
exemple.
Oui, mais après 50 minutes, c'était très clair pour moi qui va gagner le match, même si... Afrique du Sud était sous pression jusqu'à la fin et peut-être un drop par Ramos ou un penalty par Ramos la dernière action, mais quand j'étais dans le stade, toute l'énergie, toute la langue de corps, c'était les Afriques du Sud. C'est...
Ouais, après la 50e, t'as senti que ça basculait, le match basculait dans leur camp.
Oui, parce que
la sensation au moment où tu l'as senti, c'est quand ils ont choisi la mêlée sur la pénalité. Il y a un coup franc, il choisit
de
le mettre.
Peut-être 15 minutes après. Mais ça,
c'était un geste fort. Quelque chose de très provocateur en plus. De dire c'est nous les plus forts.
Oui, et aussi de dire que. Quelqu'un peut-être qui est très difficile de remplacer, c'est Winnie Antonio.
Oui.
Et de fatiguer Louis et de sortir Louis, c'est-à-dire un grand avantage quand. Avec tout le respect, c'est pas le même profil de joueur ou le même standard qui arrive, mais c'est encore quelque chose qui est...
Qui a basculé dans du mauvais côté.
Oui, mais c'est un sport devant toi aujourd'hui. Mm. Beaucoup de joueurs français, ils sont pas contents s'ils pas dans le 15 de titulaire, mais oui, pour moi, c'est vraiment changé parce que je suis honnête, assez honnête de dire que souvent j'aimerais finir avec mon équipe plus fort. Mm-hmm. Mais les Français, certains joueurs n'aiment pas ça. Mm-hmm.
Pourtant, Galtier a essayé
parfois. Oui, c'est le discours de Fabien, exactement.
Des finishers, de vouloir dire aux joueurs on ne joue pas à 15, on joue à 23. Parce que, évidemment, les remplaçants qui vont rentrer vont être déterminants souvent en fin de match. Quoi. Et c'était vraiment le discours qu'il avait auprès de ses joueurs.
Oui, mais aussi la capacité d'avoir, on dit, deux ball players après 50 minutes. Le premier 50 minutes, un test match, c'est bon, bon, bon. Il n'y a pas d'espace, mais après. Si tu as quelqu'un comme Jalibert qui n'a pas fait le premier 50 minutes et peut entrer avec Bilbaré, c'est deux mecs qui courent hyper vite, mais au début du match, ils tapent contre Willemsa ou Dialande. Il n'y a pas cette facile entrée dans un match.
Il a moins de force de pénétration, mais plus d'espace. C'est des joueurs d'espace davantage que de contact.
Oui, quand tu as des autres joueurs qui ont fait 4-5 kilomètres dans leurs jambes, mais quand quelqu'un est totalement frais, c'est difficile de pénétrer comme Bendy.
Ce qu'on faisait beaucoup quand Romain Tamac jouait et que Jalibert rentrait les 20 dernières minutes, justement, il amenait son dynamisme et son peps pour pouvoir passer sur des défenses fatiguées.
Ouais. Oui, mais ça marche quand toutes les équipes sauf les Afrique du Sud parce qu'ils ont fait 7-11, ou 7-1.
7-1, c'est
curieux. Steve, Ronan, une petite question pour parler de toi. J'aime beaucoup ton caractère, ta personnalité. Est-ce que, plusieurs fois tu as fini en tribune, tu as été suspendu. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles sur toi-même en disant il faut que j'arrive à me tenir à carreau, que j'arrête de temps en temps d'être suspendu, d'être expulsé, ou non, c'est comme je suis comme ça, je continuerai à être comme ça tout le temps?
Yeah, c'est une bonne question. C'est moi, c'est une faiblesse. Je pense de toute façon, c'est une force, mais je suis un peu comme ça. La victoire, la responsabilité, le la passion, c'est quelque chose dedans moi. Mmh. Et c'est important de ne pas être un participant, de gagner. Mmh. Et si je suis quelqu'un qui accepte et qui prend...
De subir.
Oui.
Mmh. Et pas. C'est pas possible.
C'était pas... You know, j'ai des regrets de dire des choses après la finale, quand on a perdu contre Toulouse, je pense. Mais j'ai un énorme respect pour le club. Mais quand je suis ici, il n'y a pas de culture de gang ici. So, moi, je vais défendre mon club.
Mmh. Et... Tu as même beaucoup d'amitié pour Hugo Mola.
Ouais, vous avez bien joué en plus, ça c'est un point 1-2. C'est pas votre premier entretien.
C'est un show, Ronan.
Ouais, c'est ça.
Ok, on aura compris la réponse. Merci beaucoup, Ronan, en tout cas d'être venu
merci
dans le Moscato Show.
Merci beaucoup.
C'était
merci.
Passionnant.
Bonne
on aurait chance. Pu passer 2 heures de plus avec toi. Bonne et tu reviens quand tu veux.
Merci.
Merci encore.
Merci à vous.
Vraiment.
Merci.
Et merci à Romain Asselin et merci au club de La Rochelle. C'est pas fini. Greg Aldrit et Winnie Antonio. À 17h dans le Super Moscato Show. Avant cela, c'est le deuxième journal moyen du Super Moscato Show sur RMC. A tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Le Super Moscato Show en direct de La Rochelle.
Vincent Moscato.
Il est 16h51. Le Super Moscato Show, c'est le journal moyen. Julien Richard, deuxième édition.
Et à la une du journal moyen, deuxième édition. Il était à l'instant avec vous, c'était excellent. Et on va vous offrir un peu de rap de Ronan O'Gara, client régulier du journal moyen, du Super Moscato Show, avec aussi un peu de folie, la folie des supporters rochelais, du Winnie Antonio Collector. Et puis vous êtes à La Rochelle, mais on va quand même s'offrir une petite virée dans le triangle des Bermudas. Première question du Kikadi. Alors, Fleu est visiblement trop occupé aujourd'hui. Il a dû prendre le train, tout ça, donc ça pour moi. Et ce sera un hommage mixé au père Fouras et à Fleu. Je me reprends, c'est tout à l'heure, je dis père Fouras. Quentin Vinet, oui. Présentateur des journaux de la matinale sur RMC, m'a dit on ne prononce pas le S. Père Fouras. Vous écoutez RMC, c'est le 1807e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
RMC, en direct du centre d'entraînement du stade Rochelet, à la plaine des Jeux Colette Besson, à moins de 5 minutes à pied du stade Marcel de Flandre, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen, deuxième édition.
On va rester donc avec Ronan O'Gara, le coach irlandais de cette équipe de La Rochelle, où vous vous trouvez. On est, vous savez que dans le sud de la France, on a des petites ponctuations. Hein, on peut dire putain Kong, c'est une ponctuation dans une phrase, hein, Vincent.
Tu le fais bien.
Il y a aussi Boudi Kong.
Ouais, j'ai un peu du vécu, quoi. Ben Ronan, lui, il utilise la version irlandaise de cette ponctuation. C'est sans montage. C'est extrait du documentaire Inside du club qui avait été réalisé avant la dernière finale de Champions Cup.
Regarde la fucking clarity aujourd'hui. 2 jours avant le fucking final. On peut changer notre fucking vie samedi. Les préparations, on est ok avec ça. Ça c'est fucking pas nous, boys.
Exceptionnel.
Alors
notre
on a aussi
fucking vie, Vincent.
On a aussi la version avant la première finale, hein, quand il parlait des Irlandais et Leinster.
Ferme, you know. Moi je suis convaincu and fucking convinced. We can do it. Mais fucking body language, oui. Je connais les Irlandais, ok? Just fucking pas respect eux. Don't fucking respect them, c'est un acte.
Allez, mais moral. Il est bon.
Si tu comprends pas ce qu'il dit, ça marche.
Il s'est tenu avec nous, il a pas dit un fuck.
Ouais.
Jamais au micro.
Autre exemple, quand il explique toujours dans un discours d'avant-match que l'important n'est pas de savoir quelle équipe ils vont affronter.
Je préfère si c'était Lyon ou Bordeaux, je m'en fucking fous. On joue Bordeaux, samedi, c'est comme ça.
Évidemment,
je m'en fucking fous.
Je vous ai gardé évidemment la plus célèbre de ces punchlines.
Il y en a une très célèbre.
Voilà, parce que ça reste celle-ci, c'était discours d'avant-match, avant les quarts de finale du top 14, c'est capté par les caméras de Canal+.
L'opportunité, c'est fucking énorme, mais on commence aujourd'hui à zéro. On va créer l'énergie, l'état d'esprit, le sacrifice, toutes les choses on aimerait faire, ça commence. Tu peux pas juste arriver samedi et... Oh, mais je pense que ça va être comme ça. On a tellement de choses à progresser. Je dis bravo pour l'état d'esprit, pour volonté, pour envie, pour un groupe soudé. Mais il est où le rugby? J'ai pas vous. Mais peut-être vous êtes fucking content. Moi, je suis pas content. J'aimerais gagner le bouclier. C'est la fucking plus grande chose dans le monde, le bouclier. J'entraîne les meilleures équipes dans le monde. Fucking monde, moi. Let's entraîner.
Ah, vous le suivez quand même, non?
Il est incroyable.
Et où le rugby? Vous êtes fucking content.
Et donc, cette phrase que vous avez entendue au début, l'opportunité, elle est fucking énorme, c'est devenu viral. Les supporters l'ont repris, en ont même fait des t-shirts, des pancartes. On a vu les joueurs,
des
d'ailleurs.
Des mugs,
posés avec les, cette pancarte avec l'inscription. Et une célèbre marque de bière irlandaise, vous savez, la bière qui est trop épaisse avec une couleur un peu chelou, cette bière-là a fait une pub avec justement Ronan O'Gara himself dans son propre rôle.
Wow. L'opportunité aujourd'hui, c'est énorme. We were knocked down. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le sport. Maintenant, c'est quoi? Pull the finger out! Tu crois que je suis funny? Non! Vous êtes spoofers? Ou est-ce que vous êtes part de cette équipe? Montre-moi some energy! Montre-moi some belief! Montre-moi le crack! Ça commence maintenant! Allez les Guinness Six Nations! Allez les bières!
Il en joue aussi, mais c'est vrai que ça fait partie du personnage. Effectivement,
comme dans le film, la Spartiate, êtes-vous prêts? C'est Ronan.
Nous, à La Rochelle, on parle comme ça maintenant.
Les Spartes.
Ah, c'est fucking incroyable.
Lui, il aurait pu être Sparte.
Ouais. Allez, c'est la fucking première question du Kikadi, Julien.
Oui, et ce sera un fucking hommage au père Foura, donc, et à Fleufleu. Ce sera une charade. Je veux le prénom. Et le nom, je ne vais pas vous la faire avec la voix du père Foura, à moins que vous me l'ordonniez, mais on va rester sobre. Mon premier est égal à environ 3,14. Mm-hmm. Mon deuxième se
calcule... Pierre
Bourgarit.
C'est presque aussi mauvais que Fleufleu.
Le Kikadi.
Je suis surtout partisan du moindre effort.
Oui, on va prendre la même invité.
À 17h45, c'est pour gagner une paire de baskets Wiz. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Dans un instant, Vincent, on va parler avec les premières lignes. Nous serons avec Winnie Antonio et Grégory Aldrit, le capitaine Rochelais. Vous êtes sur RMC, c'est le Super Moscato Show en direct de La Rochelle.
Il est 16h57, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.